Bonjour. Alors, on a vu précédemment que la République en France, qui s'était installée, une République qui se veut démocratique, dans les aspects sociaux, hein, fait preuve d'un certain nombre de conservatismes et finalement ne reconnaît pas spontanément une réelle égalité entre les citoyens. Les citoyens sont tous égaux devant la loi. Mais la loi n'est pas toujours faite dans l'intérêt des plus faibles des citoyens, mais plutôt dans l'intérêt des plus riches d'entre eux, qui exercent à la fois les fonctions dirigeantes en matière économique et dans le domaine politique. Mais la République va également choisir de développer très rapidement après que les républicains se soient emparés réellement du pouvoir en 1879-1880. Donc cette Troisième République, elle va faire le choix de se tourner vers le reste du monde et notamment les continents qui jusqu'alors n'étaient pas contrôlés par les Européens. La France va donc devenir la métropole d'un empire colonial, d'un ensemble de colonies. Alors la France avait déjà des colonies, un premier empire colonial qui s'était établi au XVIIe et XVIIIe siècle, mais qui avait petit à petit été grignoté, notamment par le rival anglais. Très rapidement, donc, dès le début des années 1880, sous le mandat de Jules Ferry, qui est alors président du Conseil, la France va faire le choix de lancer une politique de colonisation. Elle n'est pas la seule, hein, à vouloir coloniser des territoires qui jusqu'alors échappaient à la domination des Européens. Le symbole de cette volonté des puissances de l'époque de coloniser, c'est l'organisation en 1884-1885 de la conférence de Berlin, qui est une conférence, dans la présentation que l'on fait généralement de cet événement, où les puissances européennes se seraient partagées, ni plus ni moins, que l'Afrique. La réalité est un petit peu différente. Les participants à cette conférence de Berlin ont juste fixé un principe qui est que les pays qui étaient installés sur la côte, qui faisaient du commerce déjà sur la côte africaine, avaient la possibilité de pousser vers l'intérieur et donc de coloniser les territoires à partir du point d'ancrage sur le littoral. Coloniser, pourquoi faire? Eh bien, le premier intérêt est évidemment un intérêt purement économique. Il s'agit de s'emparer de territoires sur lesquels il y a des ressources et également de territoires sur lesquels on va pouvoir ensuite vendre la production des industries française en l'occurrence. Autrement dit, on va assister à la mise en place d'un système colonial dans lequel l'Afrique va produire du coton, un coton qui va être amené jusqu'en France dans des industries textiles où ce coton va être transformé en fil, en tissu et finalement en vêtements, et des vêtements que l'on va ensuite aller revendre aux peuples africains. Donc, intérêt économique, récupérer des matières premières et avoir des débouchés commerciaux, puisque bien évidemment, dans les colonies françaises, seule la France peut vendre ses produits. Deuxième intérêt pour la France de se lancer dans la colonisation, c'est un moyen de détourner le regard de la ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire détourner le regard de la volonté d'obtenir rapidement une revanche dans la guerre contre l'Allemagne et essayer de récupérer la partie qui a été perdue, c'est-à-dire l'Alsace et le nord de la Lorraine. La France s'estime insuffisamment prête et n'a pas envie de se lancer dans ce conflit de revanche, donc elle va aller chercher de la puissance ailleurs en développant cet empire colonial. Et puis, il y a une autre justification qui est apportée, notamment par Jules Ferry, qui est, je disais tout à l'heure, un des grands inspirateurs de ce projet colonial. C'est l'idée que l'on va amener à ces peuples de l'Afrique ou de l'Asie la civilisation. C'est l'idée que l'Européen est supérieur par nature, par son éducation, et qu'il doit donc apporter son savoir, apporter ses qualités à des peuples qui en sont dépourvus. Si on fait le lien avec ce que l'on a dit dans le cours audio précédent, on retrouve là la forme de paternalisme qu'il y avait entre les patrons bourgeois et les ouvriers. L'idée que les plus puissants savent et que les autres inférieurs vont apprendre auprès d'eux. Apprendre auprès d'eux, certes, mais sans pour autant pouvoir espérer progresser un jour, puisque la colonisation, c'est quelque chose qui se fait par la force. Impose une domination qu'il maintient ensuite toujours par la force. Donc, quand on regarde les résultats de cette politique de colonisation, il y a des moments de réussite, de progrès, et puis il y a des moments de difficulté, comme lorsque le 30 mai 1885, Ferry, qui était alors à la tête du gouvernement, va se trouver renversé à l'Assemblée suite à l'annonce précipitée d'un désastre militaire intervenu dans la lointaine Indochine, ce qu'on appelle le désastre de Lang Son. Donc cette politique coloniale est quelque chose qui est devenu central pour la France. Et on ne va pas tarder à créer un ministère particulier qu'on appellera le ministère des colonies qui sera chargé de ces questions-là. Cet empire colonial français, où se situe-t-il? Bien, essentiellement en Afrique. La France va développer une présence en Afrique et notamment en Afrique du Nord et dans l'Afrique saharienne. Elle est beaucoup moins présente dans le sud de l'Afrique, où elle ne possède que l'île de Madagascar, hein, au large de l'Afrique. Et puis la deuxième région où la France va s'implanter à l'époque donc de la Troisième République, c'est ce qu'on appelle l'Indochine. Donc qui correspond à une péninsule en Asie du Sud-Est. Dans cette politique de colonisation, évidemment, la France a des adversaires, chacun met en application les principes qui ont été définis à la conférence de Berlin. À partir d'un point sur la côte, on va vers l'intérieur des terres et on prend le contrôle de cet intérieur des terres, mais arrive toujours un moment où des poussées de pays différents viennent à se rencontrer. C'est ce qui arrive en 1898, lorsque la poussée coloniale française qui se faisait de l'ouest vers l'est de l'Afrique croise la puissance britannique qui, elle, était en train de construire progressivement un empire colonial en Afrique qui s'étendait de l'Égypte en Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. On se trouve donc face à l'affrontement finalement de ces deux poussées dans ce que l'on appelle la crise de Fashoda. Fashoda est un poste qui est situé au Soudan, donc dans la région du Nil, au sud de l'Égypte. Et c'est les Français qui arrivent les premiers pour coloniser cet espace. Mais les Britanniques envoient une troupe beaucoup plus nombreuse depuis l'Égypte. La situation est extrêmement tendue. Et finalement, les Français font le choix de renoncer finalement à la région du Soudan et à la laisser aux Britanniques. Donc le 12 novembre 1898 intervient la fin de cette crise de Fashoda, qui est évidemment très mal vécu par les nationalistes français qui estiment que on s'est couché finalement devant les Britanniques, mais dont on verra tout à l'heure qu'elle va avoir des conséquences très importantes pour la situation de la France dans le monde. Alors cet empire colonial, il faut savoir qu'il comprend en fait trois types de colonies. Il y a d'abord ce qu'on appelle des colonies d'exploitation directe. C'est-à-dire, ce sont des colonies au sens où notre imaginaire sur la question l'entend, c'est-à-dire des territoires qui sont gouvernés par des Français. Et dans ce territoire, les Français exploitent les richesses de la population qui n'a pas son mot à dire et qui est donc dans une situation subalterne. Deuxième type de situation, c'est un cas très particulier en France et ça explique beaucoup de choses dans ce qui va se passer au XXe siècle. La France dispose d'une colonie de peuplement. Cette colonie de peuplement, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est un territoire qui a été colonisé à partir de 1830 et qui a été petit à petit pris sous le contrôle français, au point qu'on y a envoyé, à l'époque où il y avait en France trop d'habitants, en quelque sorte, on y a envoyé les gens qui étaient volontaires pour aller s'établir là-bas et disposer notamment de terres agricoles. Donc c'est l'établissement de ce que l'on appellera plus tard les pieds noirs, c'est-à-dire les colons français d'origine qui s'établissent en Algérie. Et puis le troisième type de colonie, c'est ce qu'on appelle un protectorat. Un protectorat, c'est une colonie d'un type un peu particulier, puisque en théorie, un protectorat est un État libre et indépendant, qui a son propre chef de l'État. Mais la puissance coloniale a d'une certaine manière le contrôle de cet État supposé indépendant à travers la personne d'une sorte de gouverneur, qu'on appelle généralement le résident général, qui contrôle les ministères les plus stratégiques, c'est-à-dire le ministère de la Défense, ministère de l'Économie, etc. Autrement dit, ces protectorats, les deux plus connus sont le Maroc et la Tunisie, sont indépendants en apparence, mais dans la réalité, sont largement soumis à la puissance coloniale qui s'y est installée. Que l'on soit dans les colonies d'exploitation directe, les colonies de peuplement, voire même les protectorats, la loi est finalement la même pour tous. Alors quand je dis que la loi est la même pour tous, c'est une façon de dire. Si vous êtes français, vous êtes soumis à la loi française. Si vous n'êtes pas français, si vous êtes un indigène, donc un habitant du pays, vous êtes soumis à une autre loi. Cette loi, c'est ce qu'on appelle le code de l'indigénat. Ce code de l'indigénat, il a été mis en place dès 1881 et il va être généralisé à toutes les colonies le 30 septembre 1887. Ce code de l'indigénat, il prévoit donc une soumission des populations colonisées, des populations colonisées qui ne sont pas en situation d'esclavage, hein, mais admirez la nuance, dans lesquelles on peut exiger de la part de ces populations qu'elles travaillent pour le compte de la puissance coloniale. Qu'elles travaillent par exemple à la réalisation de grands travaux, comme des voies ferrées, ou la construction de ports, ou qu'elles travaillent dans les plantations pour produire du cacao, du coton, du café, etc., etc. Donc le code de l'indigénat fait que les citoyens français qui vivent dans les colonies, eux, ont pour eux la loi française, sont des inférieurs qui ne peuvent espérer dans la société qu'en devenant les aides, les complices de la puissance coloniale, c'est-à-dire en faisant carrière dans l'administration coloniale aux côtés des Français. Si la France a choisi de se tourner vers la colonisation, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 1880, la France est seule. Il n'y a pas un pays en Europe qui veuille se rapprocher de la France et être allié de la France. Bien évidemment, les Allemands, qui viennent de prendre l'Alsace et le nord de la Lorraine et d'infliger une humiliante défaite à la France, ne peuvent pas devenir des alliés de la France, ils sont au contraire ses principaux ennemis. Et ces Allemands vont tout faire pour essayer de maintenir la France isolée. Alors ça tombe bien, les Britanniques, qui pourraient éventuellement s'entendre avec les Français, sont leurs principaux rivaux dans la colonisation. Donc les relations entre la France et le Royaume-Uni sont particulièrement difficiles. Quels autres pays pourraient essayer de s'unir à la France? La Russie? Ben non, pas la Russie. La Russie est un système autocratique, une monarchie dans laquelle le tsar a tous les droits, c'est exactement l'opposé de la République démocratique qu'est la Troisième République. Donc pas d'alliance possible entre la France et la Russie. Quant aux autres puissances du continent européen, l'Allemagne va faire en sorte qu'elles s'unissent contre la France. C'est la mise en place en 1882 de ce que l'on va appeler la triple alliance, une triple alliance qui joint l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Un petit moyen pour vous souvenir, parce que vous savez qu'il y a la triple entente également au moment de la Première Guerre mondiale, bien la triple alliance, alliance, ça commence comme Allemagne. Donc ça vous donne le camp qui correspond à cette fameuse triple alliance. Donc, entre des Russes qui ne veulent pas se rapprocher d'un régime politique qu'ils détestent, les Britanniques qui voient avant tout dans les Français la puissance qui a mis le bazar en Europe à l'époque des guerres de la Révolution et de l'Empire, et en plus un rival colonial, et la triple alliance. La France reste pendant une quinzaine d'années isolée sur la scène diplomatique européenne. Il faut attendre le début des années 1890 pour que la France, à la surprise générale, se rapproche petit à petit de ce pays qui est l'opposé total de lui en matière politique, c'est-à-dire la Russie. Les années 1891, 92, 93 sont marquées par des rencontres entre les armées françaises et russes, des rencontres pacifiques et des visites de la flotte russe en France, de la flotte française en Russie, et ça débouche sur une convention militaire franco-russe en août 1892. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la France s'est trouvée un allié à l'est de l'Europe. Quel est l'intérêt pour la France? L'intérêt pour la France, c'est d'avoir, en cas de guerre avec l'Allemagne, un pays qui pourra attaquer l'Allemagne depuis l'Est quand la France attaquera depuis l'Ouest. Autrement dit, prendre l'Allemagne entre deux feux. Quel est l'intérêt pour la Russie? Eh bien, la Russie, à ce moment-là, cherche à percer vers le sud, à s'agrandir vers le sud, dans la région du sud-est européen, la région des Balkans. Or, il se trouve qu'il y a un autre empire qui vise exactement la même région, et cet empire, c'est l'empire d'Autriche-Hongrie. Or, l'empire d'Autriche-Hongrie, c'est le principal allié de l'Allemagne. Donc, les Russes, pour avoir les mains libres dans cette région des Balkans, ne peuvent pas s'allier avec l'Allemagne et choisissent donc de s'allier avec la France. Le deuxième événement qui va mettre fin à l'isolement de la France sur la scène diplomatique européenne, c'est la conclusion, en avril 1904, de ce qu'on appelle l'entente cordiale, c'est-à-dire le rapprochement de la France et du Royaume-Uni. Là encore, ça n'était pas évident, surtout si on pense à 1898 et à la crise de Fashoda, donc pour le contrôle du Soudan en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que les deux pays se sont rapprochés? La France cherche toujours des alliés, donc elle a été prête pour justement se donner une chance d'avoir l'allié britannique à accepter de ne pas avoir d'influence au Soudan. Quant aux Britanniques, ils voient d'un mauvais œil le renforcement de la puissance allemande, une puissance allemande qui se veut désormais non plus seulement une puissance économique au centre de l'Europe, mais qui se veut désormais une puissance mondiale qui viendrait concurrencer les Britanniques à la fois dans les colonies, mais aussi là où les Britanniques règnent en maître, c'est-à-dire sur les mers et les océans. Donc, en 1904, la conclusion de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni permet déjà de dessiner plus ou moins les camps qui vont s'affronter pendant la Première Guerre mondiale.